règne.
Puisque la beauté est dans les mains de ceux qui la préservent.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de la face audio de la revue Il Disegno. Alors le motif de notre revue, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est la beauté. La beauté, c'est elle qui nous fait nous lever le matin. Hein. Et justement, si nous sommes aujourd'hui avec Ismaël Legrand, auteur de BD Rennais, c'est la troisième fois qu'il vient dans cette revue audio, c'est parce que nous abordons nos sujets aussi dans le sens où nos sujets attendent d'être regardés et la beauté n'émerge que quand on sait la regarder. Alors, comme promis, on continue aujourd'hui avec l'épopée des comics américains. On s'était arrêté la dernière fois à la fin des années 80. Alors, comme je disais, si on parle de la beauté des comics, ce n'est pas pour les prendre comme un objet esthétique extérieur à nous, mais il y a, c'est important, ce qui se passe pour le lecteur, le mouvement que la lecture crée en lui. Avec les comics, il y a, je trouve, une dynamisation intellectuelle et sensible par le graphisme, par la narration. En fait, je dirais que le graphique amène une sensation de mobilité permanente, de vivacité, de diversité de couleurs et de formes qui persiste chez le lecteur une fois la page refermée. Je précise qu'il n'y a pas ça dans Tintin, et ce n'est pas pour enfoncer Tintin, mais plutôt pour marquer la différence de relation à la BD entre le style comics et ce type de BD européenne. Moi, Tintin ne m'a jamais donné envie de me lever, puis d'entrer dans ma journée en boostant, quoi, voilà, en swingant même.
Non, moi non plus, non. Pas Tintin. Astérix plus, mais pas Tintin. Question de sensibilité, quoi. Mais...
Il y a aussi une histoire d'angle de perception. Le comics, c'est peut-être un peu ça, que ce soit graphiquement, scénaristiquement, diversité des angles de perception, particularité des angles de perception. Voilà, chaque personne, chacun de nous, est un angle de perception. Alors la grande question, dans ces années 90 à 2010, qui sont notre cadre aujourd'hui, c'est peut-être, avec le passage au numérique et ensuite le passage à l'écran de cinéma, avec ces changements assez énormes dans les conditions, l'esprit des comics qui s'était formé dans les pages de BD, la féerie des comics, a-t-elle pu perdurer? Avant d'entrer de plein pied dans le sujet, je crois, Ismaël Legrand, que tu as une petite, quelques news un peu sur le monde des auteurs de BD. Voilà, donc si tu peux nous en dire quelques mots.
On en avait déjà parlé, alors je me souviens plus si c'était à l'émission d'avant, c'est la toute première émission, je crois. C'était la première émission, ouais. Alors entre-temps, il y a eu Angoulême et il y a eu quelques petits remous. On a beaucoup entendu parler dans les médias, et en particulier pas mal sur Internet, du fameux rapport Racine. Donc le rapport Racine, c'est un rapport qui a été donc remis le 22 janvier à Franck Riester, donc le ministre de la Culture. C'est un rapport en fait qui a été commandé donc à Bruno Racine. Bruno Racine qui est en fait maître à la Cour des comptes et entre autres et ancien président de la BNF. Alors ce rapport-là en fait concernait le statut des artistes auteurs et son évolution depuis 30 ans. Donc il était temps que ça se fasse, ça n'avait jamais été fait. Hein. Donc on trouve par exemple des choses pour que les auditeurs comprennent bien. Par exemple, dans ce rapport, on trouve la réclamation par exemple de la mise en place d'un statut d'artiste-auteur et d'un conseil national des artistes-auteurs. On trouve par exemple d'autres mesures, donc des mesures pour faire évoluer la rémunération des auteurs. Ça paraît assez évident. On a beaucoup parlé de la faible rémunération des auteurs en France. Bon, après, qui va payer? Ça, c'est une grande question, puisque personne ne veut mettre la main à la poche. On pourra en parler après. On a aussi vu dans ce rapport, par exemple, la création de ce qu'on appelle un contrat de commande pour remplacer la valoir que perçoivent les auteurs habituellement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui serait quand même plus à l'avantage des auteurs. Donc voilà, entre autres. On a eu dans ce rapport-là donc tout un tas de mesures. On a eu une réaction effectivement des éditeurs. Le rapport n'est pas forcément à leur avantage. On a eu par exemple Vincent Montagne, donc, qui est le président du SNL, du syndicat national des éditeurs, et le PDG d'un gros groupe, on va dire, d'édition de BD. Et aussi la réaction d'Antoine Gallimard, donc le boss de Gallimard, qui ont critiqué ce rapport en disant que ce rapport véhiculait une mauvaise image des éditeurs et pourrait être responsable en fait d'une désagrégation du rapport entre auteurs et éditeurs. Hein, bon, traduction dans leur langage, bon, les pauvres, si vous pourrissez l'ambiance, arrêtez de pourrir l'ambiance avec vos revendications, quoi, hein, c'est ça que ça veut un peu dire. Voilà, voilà. la question de la profusion des titres, bon là, on sait maintenant que ça tire clairement la qualité vers le bas, et ça, tout le monde s'en rend compte, cette profusion de titres sur le marché. La réponse des éditeurs est qu'en fait, eux, ils diminueront pas, hein, ils invoquent le droit à la liberté de choix éditorial. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, ça, c'est, faut leur demander. En vérité, là, cette profusion de titres, là, il faut savoir qu'en France, il y a 5 à 6 000 albums de BD qui sortent par an. On se rend pas bien compte quand on va en librairie. 5 à 6 000 bouquins, manga et comics, BD franco-belge inclus. C'est, c'est surtout pour les libraires un gros casse-tête. Hein. Eux se plaignent de n'être plus que des ouvreurs de carton. Voilà. Donc cette profusion de titres-là est très profitable en fait aux gros éditeurs. Hein. Avec toujours les auteurs comme variable d'ajustement, évidemment, parce qu'eux s'en mettent plein les poches, mais... Les auteurs, eux, ben voilà, ils ne profitent pas en fait de cette profusion, quoi, de ce dynamisme du marché, quoi. Donc il y a toujours un grand écart rhétorique en fait qui est fait de la part du SNE et des gros éditeurs quand il s'agit d'expliquer le fossé existant en fait entre ce secteur qui est dynamique et très rémunérateur et la faible rémunération des auteurs. En fait, donc la personne veut mettre la main à la poche. Donc ce qui s'est produit à Angoulême, là, c'est que, bon, on a bien vu qu'il y a eu un peu de rififi. Franck Bondou, là, le directeur du FIBD, donc du festival d'Angoulême, et Franck Riester ont été vivement hués au lancement du festival. Il y a des vidéos qui sont assez sympas, j'invite les auditeurs à les regarder sur YouTube. Voilà. Qu'attendre du rapport maintenant qu'Angoulême et ses remous médiatiques sont passés, pour l'instant il n'y a pas eu grand chose de fait, même de la part de Franck Riester qui a dit qu'il allait se passer quelque chose après Angoulême, ça n'est pas le cas, donc wait and see comme on dit, hein. On a eu par exemple la démission de Denis Bajram, hein, qui était le président de la Ligue des auteurs professionnels et un membre très actif du Snack BD là, dans la foulée d'Angoulême. Il a dit clairement que lui, il était un petit peu fatigué de lutter et qu'il allait reprendre ses activités d'auteur. Est-ce que c'est un mauvais signe? Moi, je pense que c'est malheureusement un mauvais signe. C'est-à-dire que c'est un type qui est dans cette lutte-là depuis des années et ça ne bouge pas. On est dans une activité très, très, très précaire, quoi. Ce qui n'est pas normal compte tenu du dynamisme du secteur. Les gens, en France, veulent de la BD, achètent de la BD. Et, les gens qui produisent ça, les auteurs, ne sont pas rémunérés à la hauteur des efforts et à la hauteur aussi du dynamisme du secteur, quoi. C'est-à-dire que ça vend.
Eh oui, mesdames et messieurs, la beauté et la laideur, elles sont aussi dans ces choses-là. Ce n'est pas le sujet qu'on vous a annoncé, mais en fait, on trouvait important tous les deux, hein, moi et Ismaël, mon invité, de refaire un petit topo. De sortir quelques news qui sont chaudes, hein. C'est tout récent là, derrière les comics, derrière le clinquant du packaging, du super marketing et de tous les produits dérivés, il y a en fait des gens qui sont des créateurs, des créatrices.
Ouais, parce que surtout que au niveau des comics, bon, là, on n'est pas sûr du tout sur la même industrie, parce que c'est vrai que tu parles des comics, les auteurs de comics gagnent correctement leur vie à la planche, etc. C'est pas du tout comme en France. On a des types qui peuvent gagner plus de 1000 dollars par planche, voire plus. On peut dire ce qu'on veut de Marvel, machin, etc. Ils génèrent de l'argent, ils payent bien. C'est la logique à l'américaine. Quand un auteur vend beaucoup de bouquins, vend beaucoup de papiers là-bas, il est bien payé, quoi. On a des types qui vivent correctement, des auteurs stars qui vivent très correctement, voire même qui sont presque riches, même pour certains, voire riches. Aux États-Unis, on peut devenir riche avec de la BD si on fait des titres qui cartonnent, c'est possible. En France, quand on vend très bien, on gagne pas plus. On gagne si, parce qu'on touche quelques droits d'auteur. Effectivement, au bout des 15 000 exemplaires, les droits d'auteur se mettent en place. C'est un tout petit pourcentage du nombre d'auteurs, quoi. Donc on n'est pas sur la même industrie entre la France et les États-Unis, clairement, quoi. We'll be right back.
Alors, nous sommes arrêtés à la fin de l'émission précédente, au moment d'approcher de la bascule des années 80 aux années 90 dans l'histoire des comics. Alors, je crois que tu as, Ismaël, quelques mots à dire là-dessus.
C'est vrai que pendant la dernière émission, c'était un petit peu arrêté. On avait été un petit peu court en temps pour correctement parler des années 80, qui sont pour moi une époque. Alors, on a pour habitude, chez les connaisseurs d'un peu de comics, d'appeler ça l'âge sombre, l'âge de fer, le Dark Age, comme disent les Américains. Pour moi, c'est un âge d'or. Moi, c'est pour moi une période où on a vu un pic de qualité. En fait, on a atteint un niveau de maturité que je pense que les comics ne réatteindront jamais. Ça, c'est mon avis personnel. C'est une période où on a vu beaucoup de titres de cette époque qui sont devenus cultes, qui ont été primés. J'en ai parlé rapidement pendant la dernière émission. On a eu Watchmen, le Batman Dark Knight Returns, le Mouse d'Art Spiegelman, qui est un truc qui vient de l'underground à la base. Énormément de qualité, même dans les comics de super-héros qui sont quand même réputés pour être assez vendeurs. On a eu des choses très bien écrites, très littéraires, avec ce qu'on appellera par la suite la British Invasion, c'est-à-dire c'est tous ces auteurs anglais qui sont arrivés dans les comics aux États-Unis et qui ont relevé le niveau en termes de qualité d'écriture pour créer des titres qui sont, d'après moi, vraiment les meilleurs des comics, quoi. On a eu aussi un assombrissement généralisé des univers, clairement, encore une fois, à cette époque-là, qui était dans la continuité de ce qu'on a vu dans les années 70. Et voilà. Tout ça pour arriver jusqu'à la fin des années 90, où d'après moi, il y a eu une forme d'apogée, mais qui s'est plus traduit sous forme d'un film. C'est ça qui est assez marrant, qui est le Batman de Tim Burton, donc qui est sorti en 1989. Donc tout le monde le connaît, hein, c'est avec le Joker, le Jack Nicholson en Joker. C'est un film, pour resituer un petit peu à l'époque. Disons que les gens n'avaient pas l'habitude de voir, de prendre les super-héros vraiment au sérieux, en fait, au cinéma. Et là, Tim Burton arrivait à relever le niveau. Donc c'est un Batman qui est sombre et assez violent, hein, avec une esthétique gothique rétro-futuriste qui était assez nouvelle à l'époque. Les Américains, surtout eux, avaient beaucoup l'habitude de voir le Batman d'Adam West, c'est-à-dire la série américaine donc des années 60. Un truc avec un truc en collant, avec une musique rockabilly très 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 colorée, etc. Et là, boum, on arrive sur quelque chose de sombre, assez violent, gothique, etc. Et ça marche, quoi. C'est-à-dire l'esthétique de Burton fonctionne. Le film fait 100 millions de dollars en moins de 10 jours. C'est un carton complet. Et c'est un film qui va, et on en parlera un petit peu après, c'est ce film-là précisément qui va vraiment tranquillement ouvrir la voie au studio, quoi, en montrant que les super-héros peuvent vraiment être pris au sérieux au cinéma, quoi, et rapporter de l'argent. En fait, ça va définir aussi toute la ligne de Batman dans les années 90, et ça va surtout marquer les esprits. Je pense que toute une génération de gens qui soit l'ont vu à l'époque ou soit peu de temps après, ont cette conception-là de Batman maintenant, c'est-à-dire un truc gothique. Et avant, c'était pas du tout évident que Batman était gothique, que le Gotham, par exemple, soit avec des gargouilles, des grands immeubles, et cette esthétique rétro-futuriste, même on peut dire rétro-gothique-futuriste, c'est un peu étrange, il a vraiment créé une esthétique, hein, Burton, à cette époque-là. Ça va créer un truc vraiment très nouveau, et en même temps, ça va donner le feu vert aux productions, pour pouvoir mettre beaucoup d'argent ensuite dans les films. Et on va voir, on en parlera tout à l'heure, que dans les années 90, il va y avoir, jusqu'au début des années 2000, beaucoup, beaucoup, beaucoup de films tirés de comics.
Ok, alors par contre, les années 90, c'est un changement vraiment très conséquent pour le monde du comics BD, avec le passage au numérique. Alors comment est-ce que ce passage, qui évidemment se fait sur une certaine progressivité, un certain gradient. Que change l'arrivée du numérique dans la façon de travailler des auteurs ?
Ah bah déjà, non, alors déjà, effectivement, il y a l'arrivée des stations graphiques à cette époque-là. Ça s'est passé à la fin des années 80, au début des années 90. On a eu, par exemple, des auteurs qui pouvaient commencer à travailler très sérieusement chez eux avec du matériel de bonne qualité, c'est-à-dire faire à peu près toute la chaîne de la PAO chez eux. Au début des années 90, ça a commencé tranquillement, et surtout la création de Photoshop, quoi. Ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en particulier pour les coloristes. Il y a eu un perfectionnement des techniques de colorisation par ordinateur à cette époque-là, parce que ça existait déjà un peu à la fin des années 80, mais ils en étaient à leur balbutiement. Là, dans les années 90, on va vraiment vers 92-93, il va y avoir vraiment un basculement vers le tout, vers la colorisation Photoshop, etc. quoi.
Alors quel visage justement, là j'ai sous les yeux le X-Men, alors...
C'est le comics aux 8 millions de d'exemplaires, donc le comics, le périodique le plus vendu de tous les temps. Donc c'est le X-Men de Jim Lee et Chris Claremont, donc dessiné par Jim Lee et scénarisé par Chris Claremont. Le X-Men numéro 1, c'est le reboot d'X-Men de 1991. Énorme, énorme succès, dans une période pourtant où c'était pas la folie du super-héros. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont rebooté les X-Men, avec un scénariste de prestige, Chris Claremont, j'en avais parlé dans l'émission d'avant, qui avait scénarisé des arcs très intéressants des X-Men dans les années 80, donc un scénariste estimé, et un jeune premier, le jeune premier de chez Marvel, Jim Lee, qui est un dessinateur très hot à l'époque. Hein, voilà, donc c'est un énorme, énorme best-seller, quoi. Donc là, on est au tout début des années 90, on est en 91, donc c'est encore les, on voit bien hein, quand on regarde, là je vois que Thibaut a le feuillet le comics que j'ai apporté, on en est encore au balbutiement de la colorisation sur Photoshop. On a encore des couleurs un peu criardes, même au niveau de l'impression hein, on n'est pas du tout à des niveaux de ce qu'il y a maintenant. On a encore des peaux très roses, des bleus très bleus, des rouges très rouges, on a encore une différenciation, c'est pas très subtil encore. Mais ça se perfectionnera dans les années suivantes.
Oui, alors il y a aussi une différence d'aspect importante, c'est-à-dire que là, on est encore dans quelque chose de très coloré. À la fin des années 90, avec Darkness, là, on va avoir des choses qui sont vraiment sombres au niveau de, simplement de la teinte du spectre tinctorial, on va dire. Là, on a quand même un magnéto rouge-violet. Alors, il est assez pétant, quoi. Cyclope, il y a pas mal de jaune. On a des voilà des visages bleus, bleu ciel. Il y a du rose à gogo.
Ça s'est assombri. Là, pas tant que ça, parce que là, on est revenu de voir quelque chose de plus coloré, d'un petit peu plus baroque. Hein. Je pense que c'était une volonté éditoriale à l'époque. Effectivement, à la fin des années 90, comme la couleur par ordinateur, la colorisation par Photoshop, entre autres, devient plus fine. On a toute une série de à l'époque, les Photoshop 3, 4, 5, 6, 7 qui sortent, avec effectivement des nouveautés, des nouvelles gestions de calque, des nouvelles gestions de couleurs, des nouveaux effets, etc. Ça va énormément sophistiquer les couleurs, mais ça va aussi rendre certaines choses un peu plus fines. Alors, fines entre guillemets. Mais disons que il y aura plus de finesse dans les teintes, et les techniques d'impression aussi vont évoluer pour pouvoir quand même le papier sera quand même plus on a du papier couché, plus c'est plus fin quand même, et on imprime aussi plus de couleurs, donc en fait ça va changer vraiment le visage des comics, tout ça.
Alors est-ce qu'on a encore des auteurs qui bossent, qui font leurs planches au crayon, l'encreur qui bosse avec de l'encre, ça existe encore ?
Ouais, il y en a encore, de moins en moins, pour des questions de gain de temps. Il y a aussi des volontés éditoriales, hein, d'aller plus vite, de fournir des formats qui sont compatibles avec leur logiciel de PAO, etc. Faut pas oublier que c'est une industrie, donc les créateurs se mettent au pad aussi de ce que veulent les éditeurs. Mais on a encore quelques-uns qui travaillent comme ça, ouais, et même qui font de la colo à la main. Mais chez les Big Two, donc chez Marvel et DC, plus vraiment à cette époque-là.
Les années 90, c'est aussi Nirvana. Nirvana, groupe phare. Alors là, justement, après le côté dark des années 80, on entre dans un autre dark, peut-être qu'on va l'appeler plutôt le hard, Serve the Servants.
Now I'm born alone. South.
les années 90 dans le comics, c'est aussi l'arrivée de Image Comics. Alors, est-ce que tu peux, Ismaël, nous raconter cette arrivée dans le milieu?
Alors, Image Comics, moi, c'est par Image que j'ai commencé au milieu des années 90 à lire des comics. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Image Comics, la création d'Image, c'est vraiment le gros boom dans le monde des comics. À cette époque-là, donc début des années 90, on a chez Marvel, on a donc le fameux reboot là dont on vient de parler, donc la reprise de l'univers de X-Men, donc dessiné par Jim Lee, qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires. On a aussi un autre jeune premier qui s'appelle Rob Liefeld, qui dessine une série qui s'appelle X-Force, qui est un spin-off en fait des X-Men, mais avec plus de muscles et plus d'héroïnes sexy. Plus de tours de poitrine, on va dire. On a aussi un Spider-Man dessiné par un jeune Todd McFarlane à l'époque, qui est un carton en termes de vente. Et il faut savoir que ces trois types-là, malgré le succès, sont un peu frustrés. Ils se sentent un peu comme des vaches à lait chez Marvel. Hein. Ils se sentent un peu comme se sentait Jack Kirby à la fin des années 60, au début des années 70, chez Marvel. C'est-à-dire, il manquait un petit peu de liberté d'action, on va dire. Et surtout, ils se sentaient frustrés du fait que leur personnages en fait, ne leur appartiennent pas et leur création. Donc ces types-là, en fait, qui étaient à l'époque assez jeunes, hein, ils avaient une petite vingtaine, vont convaincre en fait, d'autres... Donc, quatre autres auteurs stars à l'époque, donc en tout ils seront sept, de se barrer de chez leur éditeur, pour la plupart c'est Marvel, et de fonder une boîte en 92 qui s'appellera donc Image Comics. Alors, dans cette boîte-là, ces sept auteurs-là vont créer six labels, et en fait, ils vont appliquer ce qu'on appelle la politique du creator own. Alors, littéralement, c'est ce qui appartient au créateur, c'est-à-dire que la création est la propriété du créateur. Ça, c'était leur choix premier, c'était le pourquoi de la création d'Image à cette époque-là. Donc, ils sont tous assez jeunes, ces types-là, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et en fait, c'est des mecs qui sont très à l'écoute du public, voilà. Et donc, que veut le public au début des années 90? Il suffit de se tourner du côté du cinéma. C'est l'époque, la grande époque de Schwarzenegger, de Stallone, des films d'action. Que veut le public? De la violence, des muscles, du sexe dans la mesure du possible, des très gros flingues, des très 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 gros flingues. Voilà. Et ils vont leur donner ce que les jeunes veulent. Donc on va avoir des séries comme Youngblood ou Cyber Force qui sont en fait des genres de X-Men, mais en plus violent, en plus graphique. Voilà, on a des héros à la musculature hypertrophiée, avec d'énormes flingues, des héroïnes en bikini, avec des jambes de 10 km. Voilà, voilà. C'est des auteurs aussi. Les auteurs aussi ont été biberonnés à ces films d'action. Donc voilà, et ça sera un carton immédiat à cette époque-là. Très 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 vite, Image passe deuxième en termes de vente, devant DC. Toujours derrière Marvel quand même, faut pas déconner, mais devant DC. Et donc on vend aussi à cette époque-là des auteurs stars qui produisent en fait des comics sulfureux aussi, quoi. On a des anciennes gloires de chez Marvel qui font des trucs où il y a des filles dénudées, des flingues, des muscles, des... voilà. Ça vend du rêve, quoi. Et là, on a c'est le concept de ce qu'on appelle le grim and gritty. Donc, c'est le sombre et rugueux. Donc là, on va vraiment avoir des titres qui vont être dans la même veine de ces séries de Youngblood et de Cyber Force, etc. On va avoir Spawn, Savage Dragon, etc. Qui sont voilà, des titres sombres, violents, avec des héros qui ne font pas de concessions. Et là, on est dans un autre niveau encore par rapport aux années 80. C'est-à-dire que là, c'est ce qui fait vendre, quoi. Donc, c'est pas une époque de grande finesse. Moi, c'est par cette époque-là que j'ai commencé à lire des comics. Voilà, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust quand même. J'en parle avec presque on dirait un certain dédain, mais en fait j'adore cette période.
Oui, alors quand on regarde Darkness, en effet, il y a un lissage graphique, un lissage des surfaces.
Les fameux gradients.
Ouais, c'est ça, il y a du gradient, il y a des corps brillants, alors là qui ont été Photoshop a bien fait scintiller les corps, notamment les corps de femmes, voilà.
Ouais, c'est là, tu vois, c'est un petit peu, comment dire, la limite, on va dire, la limite à ne pas dépasser en termes de colorisation par ordinateur. Si tu veux, là, on est à l'apogée. Je pense que le comics que t'as dans les mains, là, il est de 99. Là, on a atteint un peu le maximum. Là, ça devient un peu écœurant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement du gradient partout, des effets de flammes, des halos de Photoshop, ça brille, c'est lustré, les surfaces sont bien lisses. À partir de cette période-là, tranquillement, les auteurs, en particulier les coloristes, vont essayer de revenir vers quelque chose d'un peu plus organique. Parce que là, je pense qu'on a atteint le... Là, il y a trop de sucre dans la meringue, là. Ça dégouline, il fallait que ça s'arrête, quoi. Mais moi, j'avais 12-13 ans quand ces trucs-là sont sortis. Donc moi, j'ai adoré ça. Maintenant, je peux plus trop lire ça. C'est vrai que c'est une période quand même qui est un petit peu... qui est dispensable, quoi, quand on lit vraiment de la BD. Et pourtant, ça a été des cartons commerciaux absolument faramineux. Hein. Il y a eu films, séries, jeux adaptés, etc., de toutes ces séries-là, quoi.
Mais c'est aussi l'époque de la faillite de Marvel.
C'est l'époque de la faillite de Marvel, effectivement. En 96, Marvel, qui a été un petit peu, malgré le fait qu'il soit toujours premier en termes de vente, a été un petit peu ringardisé là, par ces jeunes-là qu'on voulait, qui avaient les dents qui rayaient le parquet, qui sont arrivés avec leurs trucs sulfureux. Et donc, Marvel est officiellement en faillite en 96. Ça peut paraître assez surprenant. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à regarder le documentaire Marvel Renaissance, qui doit être, je pense, sur YouTube. Je crois qu'il est dispo sur YouTube. Très intéressant sur cette époque-là, justement, avec le fameux plan de redressement qui suivra. On va en parler tout à l'heure.
Dans les années 2000, on va arriver avec le début des gros succès à Hollywood. Tout ça, ça se prépare dans les années 90. Hein. Début 2000, on va avoir les X-Men, les Spider-Man, etc. En fait, en préparation de tout ça, il y a une porosité, une dynamique réciproque qui se met en place et qui devient de plus en plus effervescente entre les studios de cinéma et les secteurs créa, BD.
En fait, ça se fait effectivement de façon progressive. Il faut savoir que il y a eu ce fameux Batman là en 89 qui a été le déclencheur un peu de tout ça. Effectivement, là, il y a eu du pognon, ça a fait du fric. Donc après, tous les producteurs se sont dit que les comics vendaient, enfin les films adaptés de comics. Et donc là, on a eu quand même une grosse série de films dès le début des années 90. Hein, en 94, on a eu par exemple le succès de The Mask, qui est à la base un comics, hein, faut pas l'oublier. The Crow en 95, Batman Forever, Judge Dredd, etc. On a eu tout un... mine de rien, il y avait quand même 2, 3, 4 films par an adaptés de comics. En 97, on a eu les énormes succès de Men in Black et de Blade. Il y a eu le film de Spawn aussi, assez dispensable. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, bon, Marvel était en faillite, et d'un côté, on voyait qu'il y avait de plus en plus de films adaptés de comics qui fonctionnaient bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Il y a deux types qui ont débarqué, donc l'homme d'affaires Avi Arad et Ike Perlmutter. Alors Ike Perlmutter, c'était le propriétaire d'une marque d'un fabricant de jouets, ça s'appelle Toy Biz. Et à cette époque-là, c'est ce fabricant de jouets-là, bien avant Disney, donc, qui rachète Marvel. Et ces deux types-là, en fait, vont mettre sur pied un plan de relance de Marvel. Pour un plan de redressement de Marvel, quoi. En réorientant les franchises vers le cinéma et les produits dérivés, clairement. Donc c'est un plan, en fait, qui date de la fin des années 90, quoi.
Alors, est-ce que cette nouvelle direction vers le cinéma, elle compense en quelque sorte une difficulté de renouvellement dans la partie BD?
Oui, il y a eu une faillite de Marvel, quand même. Donc c'est pas pour rien, on a eu de la BD un peu en phase terminale en termes de violence, on était clairement dans une espèce de fin de cycle, quoi. Il y a eu, pour certains, on va dire certains amateurs de comics parlent vraiment d'une période un peu décadente, malgré le fait que dans les années 90 il y a eu des titres super, hein, que ce soit chez Marvel ou chez DC, il y a eu des super trucs. C'était pas la panacée, il n'y en a pas eu autant que dans les années 80, pas du tout autant que dans les années 70. Oui, il y a eu aussi une forme de compensation, mais surtout une volonté de sauver Marvel. Et DC aussi était en perte de puissance, parce que DC était troisième derrière Image à cette époque-là. Donc,
Alors les années 2000, il y a plusieurs vagues successives, arrive la première trilogie X-Men, qui est décisive, je pense. Il y a les premiers Spider-Man, il y a les Batman de Nolan. Comment, selon toi, comment ces films se placent dans la continuité de l'esprit des BD qui existent depuis déjà maintenant des décennies, quoi.
Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a une bascule, en fait, à cette époque-là qui se fait. Comme tu le disais, il y a des porosités, en fait, entre le monde des comics et le monde du cinéma et de la télé à l'époque qui a été faite. Cette porosité-là, elle a été voulue. On a vu, par exemple, là, je donne vite fait à titre d'exemple, on a eu, par exemple, Joe Michael Straczynski, qui était un scénariste de série, par exemple, le créateur de la série Babylon 5, qui est venu faire des comics, qui a fait des très bonnes choses, notamment Rising Stars, qui est une super série que je recommande. On a eu Joss Whedon, le créateur de Buffy, qui réalisera ensuite Avengers 1 et 2, qui lui, à l'époque déjà, est venu un peu dans les comics pour scénariser. On a eu Kevin Smith, le réalisateur de Clerks, de Dogma, etc., à cette époque-là. Et entre autres, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, c'est plus à cette époque-là qu'il y a eu une réorientation vers le cinéma, en termes de production, etc. Tranquillement, les comics allaient gentiment être mis au deuxième plan. Par exemple, à cette époque-là, il y a eu la création chez Marvel de la ligne Ultimates. La ligne Ultimates, elle a été mise en place en fait pour briser les continuités et en fait attirer de nouveaux lecteurs vers de nouvelles séries avec une mise en scène plus cinématographique et sans continuité de long terme, parce que avant, quand on prenait une série en cours, il y avait 50 numéros, 60 numéros avant. Là, il fallait attirer un nouveau public vers des séries nouvelles, parfois même des one shot, c'est-à-dire des séries qui ne durent qu'un seul numéro. Donc on voit déjà qu'on est sur des choses qui se dirigent vers presque des formats films, c'est-à-dire des continuités courtes, des mises en scène très cinématographiques, et aussi la création de personnages à cette époque-là, qui seront clairement des personnages qui commenceront déjà à être pensés pour les adaptations en film. Donc ça, c'est déjà une... voilà. Il faut savoir une chose aussi, c'est que début 2000, Marvel, qui est toujours officiellement en faillite, revend ses licences en fait pour le cinéma. On sait par exemple qu'ils ils revendront en fait les droits d'adaptation de X-Men à la Fox et Spider-Man à Sony. Et ces deux-là vont s'en mettre plein les fouilles avec ces début 2000. Voilà, on arrive sur par exemple début 2000, bah, le X-Men de Bryan Singer qu'on connaît, qui est un énorme succès quoi. Et là c'est le tournant. C'est un tournant, quoi. Un vrai tournant, ce film-là.
Et t'en penses quoi des X-Men de Singer ?
Moi, je les aime bien. C'est un assombrissement et une sorte de tentative de crédibiliser, en fait, les X-Men. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Singer, c'est un type qui n'était pas du tout lecteur de comics. Hein. Il avait rien lu des X-Men et tout avant de commencer avant qu'on lui dise « tu vas adapter les X-Men ». C'était un type qui était très, très à la mode à l'époque et il a été choisi par la Fox pour adapter X-Men. C'est intéressant justement, parce que là on avait la vision d'un type qui n'était pas un type qui pas du tout de ce milieu-là, quoi. Donc il en a fait un film assez sombre en fait dès le début, quoi. Il va faire une trilogie, enfin lui il fait les deux premiers, je crois le troisième, je crois c'est Brett Ratner, c'est un navet hein, d'ailleurs, c'est une bouse. Le troisième, mais au moins les deux premiers X-Men, dont le deuxième justement est pour moi est le meilleur, inspiré justement de l'arc dont j'avais parlé dans l'émission précédente, écrit par Chris Claremont, Dieu créé, l'homme détruit. Très intéressant quoi. On a vraiment un assombrissement des X-Men avec une relecture plus psychologique. Ça a participé, je pense, au succès, voilà. Plus adulte aussi quoi. Clairement, des adultes, des gens qui avaient 30, 40, 50 ans pouvaient regarder X-Men sans se dire « Ah, c'est des abrutis en collant qui gesticulent ». Et par la suite, on va avoir, au début des années 2000, toute une série de films à l'image de ce succès-là qui vont aller dans ce sens-là. Alors par exemple en 2001, même pour la télé, quoi, on va avoir par exemple en 2001 la série de Smallville, donc, qui est basée sur l'univers de Superman, qui va être un énorme carton à la télé. En 2002, on va avoir Blade 2, on va avoir le Spider-Man de Sam Raimi, qui est le premier film de l'histoire à dépasser les 100 millions de dollars de recettes le premier week-end d'exploitation. Donc là, encore une fois, ça, au niveau de l'argent, ça sue, quoi. Les producteurs commencent vraiment à se dire que c'est très intéressant. Bon, ils le savaient déjà, hein. Et donc là, les années d'après, on voit bien que c'est exponentiel en termes de nombre de films par an, de super-héros. Pourtant, on n'est pas encore dans le MCU, mais là, on a par exemple 2003, Daredevil, Hulk, X-Men 2, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, 2004, Catwoman, Hellboy, Spider-Man 2, Garfield, Blade 2, Punisher, et même Les Indestructibles, qui sont pas là, qui sont un hommage, voilà, etc., etc. Après, on a tout à 2005, on a 5-6 films, pareil, tous les ans comme ça, jusqu'en 2008, à la création du MCU. On va, mine de rien, déjà avoir à cette époque-là, on va se faire bombarder déjà de films de super-héros, quoi.
Je m'arrêterai bien, si tu veux bien, sur le personnage du Batman de Nolan, en particulier le premier, Batman Begins, ça c'est 2005. Un Batman, il est intéressant parce que Bruce Wayne dit lui-même, disons que c'est peut-être un des persos qui vont le plus théoriser leur propre action de super-héros et même leur image de super-héros. Bruce Wayne, pour combattre ses adversaires, veut être plus qu'un homme, il veut être un symbole. Il pense qu'il sera plus efficace comme symbole. Et donc là, le symbole, le masque, le fait d'être, de ne pas être connu ni de ses adversaires, ni du public, en tant que personne avec un nom, un prénom, une carte d'identité, etc. Non, c'est le Batman, quoi. Comment tu vois l'arrivée de ce Batman-là avec le travail de Nolan?
Ce film-là, il va encore ouvrir une autre porte. On sent bien que c'est le film qui va influencer, même chez Marvel, hein, là on est sur du DC, mais même chez Marvel ensuite pour le MCU, il va influencer la DA, donc la direction artistique, des films qui vont suivre. Clairement, là, et c'est marrant parce que pareil, Nolan, c'est un type qui vient pas de ce milieu-là, hein, mais qui a apporté sa touche esthétique à Batman, un peu comme a fait Burton à une certaine époque. Burton, pareil, qui n'était pas du tout un lecteur de comics ni rien, mais ils ont apporté leur propre esthétique sans totalement non plus dénaturer le personnage, en lui apportant quelque chose de plus. Et c'est là où ça fonctionne, c'est-à-dire que les gens ont vu quelque chose d'assez frais. C'était frais dans la noirceur, quoi, le Batman Begins, et surtout très réaliste. Il y a un côté très réaliste. On rentre effectivement dans la tête du personnage de Bruce Wayne. On est là, clairement, on met les deux pieds dans l'ère du méta super-héros, c'est-à-dire le super-héros qui se retourne sur lui-même, le super-héros qui se pose des questions de son rayonnement en termes de symboles. On parlait par exemple de la symbolique du masque, tu parlais du fait de porter le masque. C'est un personnage qui clairement se pose la question de la puissance évocatrice et symbolique du masque, hein. Le masque en fait qui révèle plus qu'il ne cache, c'est-à-dire le masque comme symbole. Qu'est-ce qu'est Batman? Une figure effrayante qui doit dissuader les criminels de criminer.
Alors l'ère du méta, l'ère du numérique, l'ère d'un certain type de binaire aussi, le binaire informatique, quoi de mieux que les Chemical Brothers pour nous montrer dans quelle nouvelle réalité binaire peut être hors de contrôle. Alors est-ce que c'est le binaire numérique qui est hors de contrôle? Est-ce que ce sont les super-héros dont les capacités les amènent à se poser la question du contrôle, de la maîtrise, en tout cas des forces qui sont en eux? Voilà, out of control des Chemical Brothers. Marvel, en 2008, lance le MCU, l'univers cinématographique Marvel, avec en premier jet, en premier projectile, on va dire, Iron Man, premier du nom, donc qui lance un univers qui s'est enrichi, étoffé, enchevêtré même, on dirait depuis, avec une moyenne quand même de 2 ou 3 films par an. Là, on suit, on recroise Thor, Captain America, Iron Man, La Veuve Noire, Hulk. Alors, il me semble que Marvel, donc qui est devenu, en fait, à ce moment où Marvel est aussi racheté par Walt Disney 2009, Marvel est devenu, on dirait bien, avant tout Marvel Studios, c'est-à-dire que la partie édition de comics, BD, finalement devient le back-office du MCU.
C'est assez marrant parce que je repense là une interview de Jim Starlin, donc un scénariste connu qui est le papa de Thanos. Et donc en fait il a fait une interview à la Comic Con là à Paris récemment, et dans ce truc là il dit les comics, enfin les éditeurs en fait sont devenus des départements de recherche et développement pour les films à venir. C'est assez révélateur. On a eu par exemple ce week-end, c'est marrant parce que ça c'est une info toute chaude, ce week-end on a eu Dan Didio, un des deux publishers, donc publisher en français c'est directeur éditorial en gros, de chez DC, qui a été viré par les exécutifs de la Warner. Alors officiellement pour une histoire de restructuration, en réalité c'était pour une question de différence sur un projet, mais bon, on a bien la confirmation avec cette affaire en fait que c'est les producteurs de ciné qui dirigent les éditeurs de BD, quoi. Encore une fois, là on a clairement un type à la tête de chez DC qui a été viré par les cravates de Warner, et ça pourrait très bien se passer pareil entre Disney et Marvel. C'est Disney qui pourrait disposer des auteurs, des éditeurs et du staff de chez Marvel, quoi.
Alors, on va s'arrêter sur un film en particulier du MCU, un film clé justement sur les questions, les problématiques d'actualité autour de l'informatique, de l'intelligence artificielle. C'est l'ère d'Ultron, quoi. Là, on est en 2015, l'ère d'Ultron, donc c'est le deuxième épisode des Avengers, dirigé par Joss Whedon. Finalement, je dirais plus dirigé. Pour les Américains, ce qu'on appelle le réalisateur, nous, avec presque une idée d'auteur un peu littéraire, pour les Américains, c'est le director, c'est plus un directeur artistique.
C'est ça, ouais, c'est un type qui est là pour chapeauter les équipes, qui colle son nom sur un projet. Ils aiment bien souvent mettre des types qui ont un nom un peu prestigieux. Comme je disais tout à l'heure, bon, Joss Whedon, c'est un type qui a été connu surtout au milieu de la série, qui avait fait quelques séries à succès, de SF notamment, et fantastique. Si on était un peu méchant, on pourrait dire que y a une formule qu'on utilise souvent aux États-Unis, c'est le yes man, c'est le type qui dit yes, quoi. Le producteur dit tu vas me faire ça, et le director va diriger et dire bah toi fais ça. Un contre-maître en fait, une forme de contre-maître du cinéma, quoi. On a effectivement une vision en Europe qui est pas du tout la même que celle aux États-Unis, où les types ont des projets de 100, 200 millions de dollars, 300 millions de dollars dans les mains. On ne fait pas ce qu'on veut, quoi, quand on a autant d'argent et surtout l'argent des producteurs. Et ils aiment bien le rappeler, souvent.
Et donc Ultron, c'est un film où on a deux occurrences, deux manifestations de l'intelligence artificielle. Donc on a d'un côté le personnage qui s'appelle Ultron. Alors tu peux nous en dire deux mots?
Oui, alors Ultron dans le film, c'est un personnage en fait qui est créé en fait à partir de l'IA, donc Jarvis, qui est une espèce d'IA créée par Tony Stark pour l'assister dans ses travaux, une IA hyper perfectionnée qui sert donc à qui aide en fait Tony Stark, et donc à partir de cette IA là a été créé donc Ultron, qui contrôle, alors dans le film c'est l'Iron Legion, c'est une légion en fait d'Iron Man, on va dire en robot, qui a pour but de protéger l'humanité, quoi. Mais dans le film en fait, Ultron en fait, qui donc a pour but, comme je viens de le dire, de protéger l'humanité, fait un petit calcul froid, tout simple, c'est qu'en fait, quand il se demande quelle est la principale menace de l'humanité et de la Terre, il en déduit que c'est l'homme.
Et donc là, on a, plus tard dans le film, il en sort Vision. Alors Vision, lui, c'est un peu l'autre versant de l'intelligence artificielle.
Vision, il est créé à partir de la pierre d'esprit, la fameuse pierre d'esprit de Thanos, enfin, qu'on a vu dans les épisodes précédents. Il est créé à partir de cette fameuse pierre d'esprit, et en fait, il a un corps en fait, organique, donc il est, on va dire, un peu humain. Il est de d'essence magique, avec un corps humain, mais il a l'IA de Jarvis. Donc on a un personnage qui a un mélange entre technologie, magie et organique, quoi. Donc lui, il a la croisée de, il a la croisée conceptuelle de tous les, enfin il a la croisée de tous les concepts en fait.
C'est du transhumanisme mais magique.
C'est ça, c'est le le transhumanisme mystique. Et d'ailleurs dans sa façon de penser, Ultron effectivement, voilà, il a un corps d'androïde avec une sensibilité, enfin une tentative de sensibilité humaine. Comme on voit dans certaines scènes assez marrantes, il y a une scène de Civil War où on voit en fait Vision qui cuisine un goulash, il a une petite romance avec Wanda Maximoff, et lui, il essaie de lui cuisiner un goulash, mais en fait c'est de la cuisine de robot, quoi. Hein. Il n'y a pas trop de sensibilité, enfin en fait c'est dégueulasse, clairement. Donc on voit qu'il est fasciné par la... il recherche la sensibilité, quoi. Il est fasciné par la conscience. Mais c'est pas très facile.
Alors, moi perso, ce que j'aime bien dans le MCU, c'est un aspect qui s'est développé un peu plus tardivement là et qu'on voit vraiment dans les derniers films 2017, 2018, 2019. On a un côté hyper pop chatoyant, vif, clipesque, avec celui qui a remplacé Edgar Wright sur Ant-Man, c'est Peyton Reed. Moi, c'est un réalisateur que j'aime bien parce qu'il a dirigé la petite pépite du cinéma pop Bye Bye Love, et on rigole sans perversité, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cinéma américain. Alors ensuite, on change un peu, c'est-à-dire, quand on arrive à Infinity War et Endgame, on a un changement de style. Alors il faut dire un peu que ces deux films-là, c'est le climax narratif et financier, bien sûr, du MCU, le premier grand climax, il y en aura peut-être d'autres. Et autant, dans Infinity War, on a quelque chose alors de plus grave que... C'est un film qui est à la fois pop et grave, je dirais, avec graphiquement un chatoiement galactique violacé, quelque chose qu'on doit, d'après toi, à Jack Kirby pas mal. Et puis, hop, Endgame, on retrouve un film assez sobre en termes de charte graphique, etc. Mais Endgame, par contre, alors là, on est complètement dans ce qu'on peut appeler le... Endgame, c'est le rebouclage un peu de l'univers Marvel, de l'univers cinématographique Marvel sur lui-même. C'est une sorte de résumé interconnectique, cybernétique de tous les films qui ont été faits précédemment, donc on revient dans le temps, etc.
Ouais, moi je voulais parler par exemple effectivement du climax de Endgame, donc effectivement le retour dans le temps, effectivement, parce que c'est assez référentiel, donc c'est marrant dans le film. Et surtout qu'il n'y a pas de scène post-générique. C'est le premier depuis 21 films, je crois, où il n'y a pas de scène post-générique.
Ben merci, Ismaël, pour ces trois rendez-vous, quand même. Donc là, on a pu faire un tour cosmique de l'univers des comics depuis les origines et surtout les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, les avancées sur le projet actuel d'Ismaël Legrand sur la page Facebook vitriol-bd. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine session de la revue audio Il Disegno, très bientôt. Allez, pour se quitter, je vous laisse avec La Femme d'Argent de R.